laisser pour compte pour les galères qu'il surmonte. L'humanité se consume dans les hommes sortis des urnes. Entre lui, si l'enclume, du bonheur, on a que l'écume. La loi de la carte à puce, le plaisir coté à la ruse. Pour oublier la réalité, on en veut toujours plus. Alors on prend la vie comme elle vient, en s'éloignant du droit chemin. On prépare nos lendemains, militants du quotidien.
Pour cette émission Copé Radio du mois de juin, donc la dernière de cette série d'émissions qui explore le champ de l'éducation populaire, le thème choisi est la ludification de la société, en tous les cas pour la première partie d'émission. Nicolas de Envie en jeu est là pour en parler avec nous. Alors Nicolas, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Peux-tu nous présenter donc Envie en jeu, association dans laquelle tu es salarié ? Nous dire pourquoi tu as eu envie d'aborder ce sujet et de quoi on parle quand on parle de l'édification de la société.
Alors Envie en jeu est une association d'éducation populaire, donc d'éducation relationnelle. Donc on travaille sur tout ce qui est prévention des violences, gestion des conflits, développement des pratiques de coopération. Et c'est vrai que depuis sa création et même avant, l'idée c'était d'utiliser les jeux de coopération pour travailler, entre guillemets, hein, pour jouer, mais aussi pour aborder la question des relations, des interactions, de nos apprentissages, qu'ils soient relationnels, en termes d'organisation, de fonctionnement. Et il y a vraiment un lien direct entre le jeu et les apprentissages. Le jeu, c'est la modalité, on va dire, la plus normale, la plus spontanée d'apprentissage chez les enfants, mais également chez les adultes. Et on sait que les apprentissages sont efficaces par le plaisir. Donc quand on a du plaisir à jouer, quand on est acteur de ses propres interactions, de ses propres mécanismes, de ce que l'on met en jeu justement, lorsqu'on a le droit de se tromper, on a le droit de réessayer, de s'entraîner jusqu'à y parvenir, ben, en fait, les apprentissages, ils sont créés dans une pratique. Et si en plus par derrière, on fait des débriefings, c'est-à-dire des temps d'intégration de ce qui s'est vécu à la fois d'un point de vue émotionnel, affectif et dans les interactions et dans les apprentissages, alors on est en capacité de donner du sens à ce qu'on a vécu, de comprendre ce qui s'est passé et donc de fait aussi de questionner nos stratégies et de réfléchir à comment on peut faire, on peut vivre ensemble, on peut jouer ensemble et en fait on va apprendre là sur des choses non sérieuses des manières de s'exprimer, de s'écouter, de décider, qu'on va pouvoir réintégrer en fait, au quotidien. Donc Envie en jeu, c'est une association qui explore ça, parmi d'autres choses. Donc j'ai eu envie de parler ludification, gamification, parce qu'en fait, c'est aussi un des questionnements du moment. On voit de plus en plus de salons du Serious Game. Il y a tout un pan de la société qui intègre des jeux de rôle, des mises en situation, qui intègre des outils ludopédagogiques dans les formations initiales, mais également dans les formations professionnelles. Ça prend de plus en plus de place, y compris sur des festivals de jeux. Et c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce que ça nous dit de l'époque, qu'est-ce que ça nous dit de la société, et où est-ce qu'il y a des points à interroger en tant que structure d'éducation populaire qui ne fait pas du jeu simplement pour augmenter la productivité, l'efficacité, l'efficience, mais aussi pour générer des interactions et apprendre de nos interactions.
Oui, donc c'est la dimension de débriefing qui est l'enjeu de l'éducation populaire, là. Parce que le jeu, effectivement, est lié à l'apprentissage. Ça, on le voit très bien dans des tas de jeux et même dans l'aspect pédagogique et d'éducation des enfants. Mais le jeu peut aussi être un amusement, tout simplement.
Le jeu est avant tout un amusement.
Et en même temps, le serious game revendique aussi un apprentissage.
Il y a pas mal d'auteurs, hein, de théoriciens du jeu. C'est quelque chose qui est pensé, analysé depuis longtemps. Il y a des théoriciens comme Roger Caillois. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est libre. Alors libre au sens volontaire, qui est séparé des activités humaines. C'est pas quelque chose, au contraire, qui sert à apprendre, mais bien qui est hors quotidien, hors réel, qui est incertain dans son issue, qui est improductif. Il y a des règles, c'est fictif, et c'est gratuit justement au sens où il n'y a pas d'atteinte de résultats. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'apprentissage, et c'est aussi des choses qui ont largement marqué le mouvement de médiathèques, des ludothèques pardon, l'ALF, l'Association des ludothèques de France. Il y a vraiment une culture ludothécaire autour du jeu pour le jeu, du jeu gratuit, du jeu sans intention, et parfois même de très fortes résistances, on va dire, à l'usage des jeux pour travailler, par exemple dans les écoles, sur la coopération, sur la prévention des violences, en disant que ce n'est pas la fonction du jeu. Le jeu, ça sert à jouer, à avoir du lien, du plaisir. Après, il y a effectivement tout un débat autour de ça. Bon, pour Gilles Brougère, il y a 5 critères. Bon, en tout cas, il y en a au moins 2 qui conditionnent le fait qu'une situation ludique puisse exister. Il faut que ce soit pour de faux, c'est-à-dire qu'il y ait du second degré, et il faut qu'il y ait une décision directe des joueurs de s'impliquer, c'est-à-dire que ce soit volontaire. Sans quoi, c'est pas du jeu. Il y a une forme de contrainte, il y a une forme d'intention derrière, mais c'est pas du jeu. Voilà, on pourrait démultiplier à l'envi, on va dire, les auteurs, les références, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que le jeu, pour le jeu, se fait hors de la sphère des contingences du quotidien de la production. Maintenant, il y a aussi, et depuis très longtemps, ce qu'on appelle les serious games. En fait, ça a des siècles. Hein. Ça a commencé avec l'armée, ça a commencé avec les soldats en plomb. Comment on améliore finalement la capacité de nos unités armées de travailler ensemble face à un ennemi? C'était ça à l'origine. Et donc, c'était des expérimentations, des mises en situation, et puis des réflexions autour de l'amélioration des stratégies, des techniques, de la coordination, etc., etc. Bon, il y a eu tout un tas d'étapes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles de formation initiale, technique, professionnelle, beaucoup de formations continues intègrent du serious game, intègrent des séquences de jeux et de jeux de rôle, de mise en situation, et de plus en plus, il y a des jeux thématisés qui sont créés alors pour lutter contre le harcèlement, pour lutter pour faire de l'éducation à l'environnement, pour lutter contre la discrimination homme-femme, pour lutter contre tout un tas de choses, et pour apprendre à être des parents. Voilà, il va y avoir un milliard de thématiques, avec par contre souvent un très faible intérêt du point de vue ludique et davantage de forts messages. Donc des messages d'apprentissage, des ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'aurais presque envie de dire que la plupart des jeux à thématique de sensibilisation à l'environnement entrent dans cette catégorie. Parce qu'en réalité, dans les jeux, il y a des quiz, il y a des jeux de loi, il y a des choses qu'il faut répondre. Mais finalement, ce qu'il faut répondre ou ne pas répondre, c'est quasiment déterminé par le jeu. Et en général, c'est dans le cadre de pensée, le cadre de réflexion du développement durable. Mais le développement durable, c'est quand même une entrée possible parmi d'autres de l'écologie. Donc les jeux, finalement, dans ces cadres-là, ils sont vraiment formatifs de sensibilisation et avec un rapport pas très clair au système, mais en tout cas des gestes qui sauvent, des bons comportements, c'est pareil pour la fresque du climat ou des choses comme ça.
Une sorte d'enrobage, d'un message prédéterminé.
C'est ça. Et ce qui fait que souvent, les messages parfois peuvent être vécus lourdingues, de manière très lourdingue, et 2, les mécaniques ludiques n'étant pas souvent au cœur de la réflexion, c'est souvent pénible, c'est pas du tout rigolo. Et en fait, parfois, voire souvent, en fonction du message, ça rate la cible. Parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Répondre à des QI, c'est sympa, mais enfin, ça va un temps. Et puis, les jeux de loi, tout le monde invente fil et couper le beurre, c'est sympa, mais enfin, depuis 15 ans, le monde du jeu, l'univers ludique s'est totalement révolutionné. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des designers, des game designers, et y compris dans la ludopédagogie, et y compris, on va dire, dans le serious game, il y a des entreprises spécialisées, il y a un réseau qui s'est créé, il y a des festivals, et y compris, il y a une réflexion autour de l'intégration de mécaniques ludiques davantage riches, dynamiques, innovantes, et qui génèrent du plaisir. Simplement, ces game designers et ce secteur des serious games généralement font du jeu sur mesure. Du jeu sur mesure qui répondent à des commandes. Commandes d'institutions, commandes de collectivités, commandes d'acteurs socio-économiques. Et ce n'est pas des jeux qui ont vocation à être destinés au grand public. Donc c'est souvent un marché, hein, c'est très concurrentiel. C'est des boîtes privées en fait, de consulting, souvent. Et ce secteur des serious games, il y a aussi, en fait, il y a une forme de prime à la compétence, de focus souvent réalisé sur la capacité, la production et le résultat, et la question des interactions, des émotions, des relations peut passer au second plan. Et la question du plaisir, ça reste un questionnement. Donc là, ça dépend un peu des uns et des autres.
Oui, alors je pense aussi, par exemple, aux escape games pour recruter un employé, ou encore les escape games et autres jeux de team building. Ça fait partie de la ludification de la société aussi.
Alors, oui, alors à ce niveau-là, j'aimerais juste clarifier la différence entre ludification et gamification.
Oui.
En anglais, il y a un seul mot. On dit « to play ». Et « to play », ça peut être soit un verbe d'action avec un côté fun, c'est faire quelque chose de drôle, le faire avec un outil jeu, mais en tout cas, il y a cette notion d'action, c'est jouer, quoi. Et il y a « the game », qui est un objet, un jeu, mais aussi une structure. Donc « game designer », c'est des gens qui vont designer, qui vont concevoir la structure d'un jeu. Et ça consiste à ajouter des mécaniques ludiques à des séquences. Donc la ludopédagogie peut consister à intégrer des outils ludopédagogiques à des sections d'animation, de formation, etc. Nous, en vue en jeu, on fait les deux. On fait du playing et du gaming. Mais en tout cas, la ludification de la société, c'est le verbe d'action qui va consister donc à intégrer des mécanismes de joie, de plaisir dans nos actions du quotidien, dans nos fêtes entre amis, en famille ou que sais-je. Et la gamification, c'est bien le fait d'introduire des mécanismes ludiques aux formations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que partout, on cherche à faire de la pédagogie active en incluant des séquences et des outils. Et donc ça, c'est de la gamification. Mais il y a des difficultés. Car s'il est très intéressant, par exemple, de faire dans des formations d'infirmières des jeux de rôle ou bien même formation premier secours, on nous met en situation. Et donc il faut réagir. Et on peut être évalué là-dessus. Sauf que bien sûr, quand c'est pour de faux, même si ça peut générer du stress, c'est pour de faux. Et la capacité à réussir un examen par de la mise en situation et des séquences ludopédagogiques, c'est une chose. La garantie que derrière, on sera en capacité en temps réel de le remettre en œuvre, c'est encore une autre question. Donc en tout cas, on est quand même à cette époque où le jeu est devenu à la fois un outil de consommation capitaliste de masse, avec des maisons d'édition, de la concurrence, des salons professionnels, des rencontres, des entreprises, des spécialistes, des auteurs, enfin un secteur extrêmement riche et complexe. Et il y a aussi maintenant à côté cette émergence d'entreprises, de structures, de coaching, d'accompagnement à la formation et à l'introduction de ces séquences de gamification.
Du coup, ton message par rapport à ça, ce serait quoi ?
Le message par rapport à l'éducation populaire, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le jeu pour le jeu, pour moi, il est fondamental parce qu'encore une fois, nos apprentissages ludiques sont des apprentissages de la vie. Pour peu que derrière, on fasse un micro-débriefing sur ce qui a été vécu, de la clarté sur des questions qui permettent justement aux joueuses, aux joueurs d'avoir conscience de ce qui s'est passé, de le mettre en mots et de réguler derrière. Mais il y a aussi une intégration par le libéralisme du jeu comme outil. Ça peut générer des résistances du jeu pour le jeu, mais ça peut aussi générer des résistances de la part du secteur de l'éducation populaire. Parce que si le jeu comme team building sert à améliorer la productivité des salariés, à masquer les conflits, à générer, on va dire, une espèce de fausse ambiance détendue, en fait, c'est une forme de manipulation.
Ou sélectionner des personnes pour telle mission.
C'est ça, par rapport à des compétences que le jeu vient activer. Effectivement, parce que le jeu active des compétences, les identifie. On a plein de compétences dans le jeu, des compétences cognitives, des compétences affectives, des compétences sociales. Donc, le jeu comme critère de sélection, pour moi, c'est à peu près le contraire de ce que j'ai envie de vivre avec Envie en jeu, qui est le jeu pour inclure. Le jeu pour inclure les différences, le jeu pour inclure les affects, le jeu pour faire émerger les besoins, pour permettre de s'organiser ensemble avec nos différences dans tous les domaines en fait.
Mieux se connaître, faire ensemble.
Et donc on est vraiment sur un sujet idéologique, théorique et pratique. C'est est-ce que le jeu devient un nouvel outil, on va dire, de comparaison avec les jeux de compétition, d'élimination, de sélection, avec un critère qui est évalué, une compétence, la rapidité, la force ou que sais-je. Ou est-ce qu'on est sur des jeux inclusifs avec des compétences multiples qui tournent et qui permettent à chacune, à chacun, dans un processus de co-construction, de contribuer à finalement une stratégie commune, dans une optique aussi de faire du lien, du plaisir. Est-ce qu'il peut compter, c'est moins de gagner du coup, que de faire ensemble, d'être ensemble et d'expérimenter ensemble. Donc c'est ça l'enjeu.
Et on parle de tout ça aux portes des Jeux Olympiques 2024.
Oui, complètement, bien sûr, parce qu'évidemment, hein, alors oui, le sport, ça peut être un jeu, tout dépend de quelles sont ses intentions. Puis c'est de gagner en renforçant la compétition, ça ne développe pas les mêmes relations, les mêmes apprentissages et les mêmes attendus que si le sport, c'est effectivement se faire plaisir, développer ses capacités, se sentir bien dans son corps... voilà, plus en connexion avec soi-même, c'est pas les mêmes choses, c'est pareil avec le jeu.
Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à l'actualité des Jeux Olympiques. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Sur le sujet de la ludification, gamification ?
J'ai quand même envie de dire que dans beaucoup de milieux professionnels, l'importance du jeu est citée, est identifiée, est connue. Il y a eu vraiment, encore une fois, beaucoup de travaux là-dessus. Je prends l'exemple du soutien à la parentalité. Alors, soutien à la parentalité, c'est pareil. Ça peut être culpabilisant pour les parents. Ça peut être centré dans une vision libérale sur développer des compétences parentales à l'échelle individuelle. Ou ça peut être vu comme outil de socialisation collective et d'entraide. C'est pas du tout la même chose. Il n'empêche que le jeu, et en particulier les jeux coopératifs, sont maintenant acceptés comme étant... au service des compétences psychosociales, et que le jeu coopératif peut permettre, en fonction des postures, d'être dans ces postures d'ouverture, de compréhension mutuelle, d'expression authentique, de rencontre, de lien, et qu'on peut, à travers cette intention-là, aussi déconstruire souvent les relations parentales qui sont largement basées sur l'urgence, les choses à faire, le fonctionnel, l'organisationnel, et remettre du relationnel et du plaisir entre parents et enfants, c'est revoir autrement la capacité d'être en lien, mais aussi c'est rejoindre l'enfant dans son univers et pas toujours demander à l'enfant que lui se plie au nôtre et nous rejoigne dans le nôtre.
Pour conclure, j'avais envie de donner comme ressource un conseil d'écouter la table ronde à laquelle tu as participé qui s'intitulait « Jouer pour faire société » qui a été enregistrée donc, au Festival du jeu de Cannes 2024 qu'on trouve sur YouTube et peut-être ailleurs.
Oui, sur le site du Festival des jeux de Cannes,
okay.
Par exemple, et sur YouTube, effectivement.
Ok. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur cette table ronde qui a différentes approches du jeu ?
La table ronde, il y avait différentes personnes qui étaient présentes. On a parlé d'inclusion de la neurodiversité, on a parlé des jeux et des apprentissages. Et il y avait également deux personnes qui étaient officielles des Jeux de Toulouse. L'une, Karine Minidré, qui est spécialisée depuis 15-20 ans sur la création d'outils ludopédagogiques sur commande pour des institutions autour, on va dire, de la communication non violente et des compétences psychosociales, mais auprès de jeunes en prison, enfin, dans des quartiers. Enfin, vraiment, comment le jeu peut permettre d'aller accompagner des publics de manière positive sur des problématiques et en utilisant voilà, une communication non violente qui réinstaure aussi l'intégrité des personnes et des relations. Et il y avait une autre personne, Mbouzon, qui, elle, est justement un peu l'initiative du game design, et de ce réseau de professionnels de l'accompagnement de l'élaboration de jeux au service des équipes et des processus. Voilà, donc il y a eu des échanges, parfois d'ailleurs pointus, avec des accords et des désaccords sur l'analyse de ces enjeux-là. Mais en tout cas, c'est un sujet qui aujourd'hui s'impose, y compris un festival de jeux. Et il y a de plus en plus de salons qui sont consacrés, hein, comme l'UDINOR qui a eu lieu il y a un mois. Et là, par exemple, ce mois-ci, je vais avec des collègues à l'invitation de Canopée à Toulouse. Donc, animé 4 ateliers avec aussi une table, un stand et des expos autour de séquences ludopédagogiques pour aborder ces thématiques-là de lutte contre la discrimination, de sensibilisation, etc.
Ouais, en tous les cas, moi j'ai appris plein de choses dans cette table ronde. Je conseille de l'écouter. Nous allons faire une pause musicale et écouter Motivé de Zebda avant d'entamer donc une deuxième partie d'émission en lien avec l'actualité, malheureusement. Voilà, c'était Motivé de Zebda. Donc, deuxième partie de cette émission Copé Radio qui explore le champ de l'éducation populaire. Donc après les résultats des élections européennes de dimanche dernier et l'annonce des prochaines élections législatives anticipées, Nicolas, tu as eu envie d'aborder les risques encourus par l'éducation populaire dans l'hypothèse d'un gouvernement d'extrême droite.
Oui, effectivement. Alors là, je vais reprendre ma casquette perso.
Ça marche.
Effectivement, salarié du secteur associatif, syndicaliste et militant politique, mais là je parle en mon nom propre. Oui, j'ai eu envie d'aborder cette question parce qu'effectivement, on pourrait nous dire « et alors ?» J'entends beaucoup de gens, hein, y compris que je connais, qui disent « de toute façon, voter pour Le Pen, c'est juste mettre un coup de pied dans la fourmilière. De toute façon, le cartel des gauches, de toute façon, on les a vus au pouvoir pendant 40 ans. Et que ce soit eux, d'autres ou Macron, c'est pareil. Et de la même manière, il y a tout un tas, j'ai entendu des gens qui disent, de toute façon, la politique du FN, du RN, Macron la met déjà en place. Ok. Moi, j'avais envie quand même d'aborder ça sous l'angle de l'éducation populaire, des structures d'éducation populaire, des publics avec qui l'éducation populaire est en lien, et plus globalement de ce que ça implique. Donc, certes, je peux considérer à titre personnel que les politiques menées, encore plus depuis 2017, sont autoritaires, sécuritaires, détruisent les financements des structures d'éducation populaire, menacent les projets de solidarité, génèrent des lois antisociales, racistes, etc. Moi, à titre personnel, je suis d'accord avec ça. Il n'empêche que les liens particuliers de l'extrême droite avec les forces armées, avec la police, et les médias comme CNews, ajoutés au fait que ces gens sont clairement et de manière tout à fait explicite nos ennemis, parce que leur projet, il est raciste, réactionnaire, antiféministe, anti-LGBT, nationaliste, etc., etc. On change d'échelle. On change d'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus, on va dire, les quelques précautions ou les quelques garde-fous. Avec un gouvernement qui serait d'extrême droite en alternance avec Macron, enfin en lien avec Macron, en l'occurrence, c'est clairement la fin des subventions à toutes les associations qui font vivre sur le territoire les secteurs enfants, jeunesse, toute l'animation culturelle, tout ce qui en gros ne sera pas dans le sens direct d'un pouvoir d'extrême droite dont l'origine est quand même des anciens de l'OAS, des révisionnistes, des fascistes, des nazis, et qui, en dehors, on va dire, des gens qui votent pour eux et qui parfois ont des motivations diverses et variées, les cadres de ce parti restent et sont des fascistes, et qui ont un programme fasciste pour l'embrigadement de la jeunesse, pour la mise au pas de toutes les structures collectives qui défendent les salariés. C'est un parti qui est au service des patrons, qui a toujours défendu le patronat français, qui a toujours voté contre les lois sociales. Et lorsque, pour embrigader, on va dire, les gens, ils parlent de mesures sociales, comme par exemple le refus de l'allongement de la durée des retraites, derrière, ils défendent quand même les fonds de capitalisation et refusent de taxer les richesses pour alimenter les caisses de l'État. Il a toujours été pour la destruction des cotisations sociales. Il a toujours été pour ce qui nous permet concrètement de redistribuer, de faire société. Et son argument disant « il faut donner la priorité aux Français pour les aides sociales et exclure les autres », c'est quand même, quand on va au bout de l'analyse, générer et organiser des rafles massives de gens pour les expulser. Et c'est aussi mettre des millions de gens sans ressources, sans moyens, à la rue, de manière totalement basé sur de la discrimination officielle. Donc les assos qui sont les nôtres, évidemment, qui sont en lien avec des personnes sur un handicap, qui sont en lien avec des difficultés d'insertion, qui sont en lien avec le fait d'avoir des passés qui ne sont pas dans les normes directement de la société telle que l'extrême droite la voit, masculiniste, blanche, souverainiste, réactionnaire, bah, ça va avoir des impacts. Donc les salariés des associations d'éducation populaire, les bénévoles des associations d'éducation populaire, toutes celles et ceux pour qui la culture, l'émancipation, le maillage territorial, ça a du sens, ne peuvent qu'être inquiets aujourd'hui. Ne peuvent que se demander, c'est pas juste du Mélanie +. Le rapport, encore une fois, avec la police, l'armée dans une société où déjà, depuis des années, il y a une répression systématique des mobilisations, des manifestations avec l'utilisation d'armes de guerre, avec des menaces systématiques liées à des procès, à des amendes, quand ce n'est pas l'utilisation, encore une fois, de LGBT, etc. Voilà, on n'est pas juste sur « Ok, bah, y a quelques députés, rien de plus ». C'est pas ça. C'est pas ça. De la même manière, tous les programmes qui font fonctionner les assos, les programmes de financement des dispositifs, bah, très clairement, seront priorisés autrement. Donc peut-être que la valse-musette, si vous aimez ça, ça va se développer. Le reste, c'est moins sûr.
J'ajouterais que c'est aussi, ce sera aussi la fin des soutiens aux médias publics et indépendants.
Oui, alors ça, ça sera effectivement la suite de la réforme de Rachida Dati, plus effectivement une accélération. Bah, en gros, ça sera la fin de tout ce qui ne sera pas en capacité de s'auto-financer et qui sera en contestation de ce gouvernement.
Donc, toujours dans l'idée de communiquer des ressources pour information et histoire de se documenter, je conseille d'écouter trois épisodes de l'émission Les Pieds sur Terre, hein, diffusée sur France Culture. Pour la petite histoire, l'émission Les Pieds sur Terre, donc des histoires, des enquêtes, des reportages, 30 minutes de témoignages sans commentaires, est née en 2002, hein, au lendemain de l'élection présidentielle, où l'extrême droite accède pour la première fois au second tour. Et c'est le choc. Des milliers de personnes sortent spontanément manifester dans la rue contre l'extrême droite. Les Pieds sur Terre naît donc de l'envie et le besoin d'aller interroger et enregistrer la parole de toutes ces personnes en colère. À noter qu'il y a une manifestation à Millau, place de la Capelle, ce vendredi 14 juin à 18h, hein, pour les mêmes raisons. Donc les trois épisodes que je recommande, c'est... Le FN aux commandes de points de la ville d'Orange. Donc en 1995, Jacques Bompard est élu sous l'étiquette du Front National à Orange. Et son action municipale se concentre sur le centre-ville et laisse volontairement les quartiers périphériques et l'aide sociale publique dans un dénuement complet. Voilà. Deuxième épisode, c'est le jeune facho. C'est le fils d'un militaire qui intègre un lycée militaire en internat. Il se lie d'amitié avec un camarade néo-nazi et adhérent au groupe Union Défense, donc le GUD, connu pour son radicalisme. Il s'adonne à des très grandes violences jusqu'au jour où tout bascule, après quoi il tente de déconstruire l'emprise que ce groupuscule avait sur lui. Et à la fin de l'émission, après les résultats donc, des élections européennes, il déclare que le pire est à venir, qu'il faut s'attendre au pire. Et le troisième épisode, enfin, s'intitule « Le repenti ». C'est un ex-cadre du Front National qui raconte pourquoi il a quitté le parti et qu'il consacre toutes ses forces à le combattre aujourd'hui. Voilà, c'est quand même intéressant d'écouter tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Bah, j'ai quand même envie de dire que là, on est placé à un choix. En tant qu'individu, en tant que collectif, en tant que société, c'est finalement le point d'orgue peut-être de 35-40 années de montée de l'extrême droite, de recul de la gauche sur ses idées, sur ses propositions, sur ses valeurs, d'adaptation finalement de la droite aussi aux idées extrême droite, hein, on le voit avec l'air qui explose. C'est la fin de tous les discours sur le barrage, sur le front républicain. Non, on est au moment là de l'apnée, c'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. Et ce qui casse, c'est finalement les lumières, c'est finalement l'idée qu'on peut faire une société basée sur la solidarité et l'entraide. Soit ça passe, mais alors ça passe, ça ne veut pas dire que... Élire des députés avec les mêmes programmes que ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, ça va changer quoi que ce soit. Ça sera qu'une fois de plus reculer pour mieux sauter. Donc soit ça passe, mais ça passe, ça veut dire qu'on est en capacité, les unes, les autres, de redonner du contenu à un accord pour que ce ne soit pas un accord d'appareil. Et pour ça, l'éducation populaire, les associations, les syndicats, les individus, les bénévoles doivent participer, de mon point de vue, à des fronts locaux à la base, où en fait ça soit le retour de la vraie éducation populaire, c'est-à-dire de la co-construction par le bas des projets, des programmes, des revendications. Et il ne faut surtout plus que ça soit des politiciens professionnels non contrôlés, non révocables, qui vivent dans leur palais de la République sans aucune réalité que nous on vit, qui soient la manette. Donc aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est aussi reprendre la main de l'engagement, et c'est quelque part aller ensemble vers qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et ça, effectivement, le choix d'aujourd'hui, il s'impose à tout le monde.
Oui, à ne pas se condamner et s'enfermer dans un fatalisme qui dirait que de toute façon, ça doit arriver, ça va arriver et que tout est à inventer quand même.
L'impuissance est le contraire de l'éducation populaire. L'impuissance, la résignation, c'est ce qui justement a détruit nos capacités à agir. Et c'est ça qui a donné aussi le développement, on va dire, de la représentation, mais aussi de l'individualisme et du moindre mal. Mais cette logique du moindre mal, cette logique du « vaut mieux ça que rien », cette logique de « toute façon, moi, je ne peux pas faire grand-chose », cette logique de « c'est pas moi, c'est les autres », c'est aussi cette logique-là de « je fais ce que je peux à ma sauce », en fait, ça va dans le mur. Et le mur, il est devant nous, en fait. Donc, est-ce qu'on est en capacité de changer de paradigme? Et le paradigme, en tout cas, qu'il me semble être nécessaire aujourd'hui, c'est « ça veut dire quoi, d'un point de vue concret, opérationnel, agir ?» Agir pourquoi, comment, avec qui, et ça veut dire quoi aussi agir ensemble, c'est-à-dire faire société.
Voilà, une belle conclusion, l'impuissance est contraire à l'éducation populaire, et agissons.
Et l'amertume de tous les laissés pour compte, pour les galères qu'ils surmontent. L'humanité se consume dans les hommes sortis des urnes, entre l'huissier et l'enclume. Du bonheur, on a que l'écume. La loi de la carte à puce, le plaisir côté à la ruse. Pour oublier la réalité, on en veut toujours plus. Alors on prend la vie comme elle vient, en s'éloignant du droit chemin. On prépare nos lendemains, militants du quotidien. Je vais abandonner, je donnerai tout jusqu'à la fin pour rien regretter. Mais le combat est quotidien, tous les jours faut s'accrocher. À force de mater l'horizon, on pourrait se faire une raison. Mais on continue la lutte au fil des saisons. On porte tous nos idéaux à bout de bras et on chante la vie avec ses hauts et ses bas. Le vent l'emportera sur la langue de bois. Hasta la victoria. Un vrai bouquet.